9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Quand les agents littéraires bousculent le monde de l'édition, longtemps resté une tradition anglo-saxonne, le métier se développe à grande vitesse en France. En 5 ans, le nombre de professionnels recensés au sein de l'Alliance des agents littéraires a tout simplement doublé. Aux agents de décrocher les meilleurs contrats pour leurs auteurs et parmi eux, les droits d'adaptation audiovisuelle dont le marché s'est incroyablement étendu avec l'arrivée des plateformes en plus du cinéma et de la télévision. Si vous avez été fan de la série 10% consacrée à la vie des agents de cinéma, il faut lire l'enquête publiée cette semaine dans le Figaro, enquête qui concerne leurs confrères du milieu littéraire. Ces derniers tentent de se faire une place dans le secteur de l'édition, qui ne voit pas toujours d'un très bon œil le développement de ce nouveau métier. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Et surtout, à qui l'agent va-t-il prendre ses pourcentages? À l'auteur ou à l'éditeur qui parfois ne veut rien savoir? Question qu'on va poser à nos invités. Bonjour Claudia Cohen.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes l'auteur de cette enquête que je viens de citer. Olivia de Dieuleveux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes agent littéraire au sein d'autre entreprise qui s'appelle Dieuleveux Agency. Je vais commencer avec vous, Olivia de Dieuleveux, puisque c'est votre métier. D'abord, comment vous le définiriez? C'est quoi un agent littéraire? Que fait-il?
Ce serait un trait d'union, en fait, entre l'auteur et l'éditeur. Quelqu'un qui est vraiment à 100% du côté de l'auteur, qui représente ses intérêts dans un monde qui est en pleine mutation. Et les intérêts audiovisuels, les droits étrangers, les droits littéraires.
Qu'ajoute l'auteur, puisqu'on pouvait très très bien vivre sans ça, puisqu'on dit que c'est une profession qui est très récente en France. Je raconte ma petite histoire, j'écris 14 livres, j'ai jamais eu d'agent, j'ai toujours trouvé que j'avais des très bonnes relations avec l'éditeur. Qu'apportez-vous qui n'existait pas auparavant? Pas vous-même, mais toute la profession.
Déjà, le monde éditorial change, il se globalise, on est ici, voilà, Editis achète tout ça.
Quand j'ai démarré, il n'y avait pas Netflix, vous avez raison.
Et bien sûr, l'enjeu des droits audiovisuels est important, les droits étrangers, puis après, il y a un petit problème de pourcentage, en fait. Donc, si vous n'avez pas d'agent, eh bien, l'éditeur prend 50% de tous les droits annexes. Si vous avez un agent, vous récupérez 80%.
Sauf si on a un très très bon contrat, ce qui est mon cas, je raconte les histoires, on a le droit de dire que les droits télé sont pour soi.
Bien
et
sûr.
On peut se les garder, et tout dépend des contrats. On ne va pas trop rentrer
dans
le détail, mais on peut expliquer ça. Comment vous êtes devenu agent littéraire?
Écoutez, moi j'ai été dans l'édition, j'étais chez Flammarion pendant 17 ans, je m'occupais de littérature étrangère chez Flammarion, donc d'auteurs comme Jim Harrison, Doris Lessing, tout ça, qui avaient des agents littéraires. Et nous, je travaillais donc avec eux toute la journée, et j'ai décidé il y a 5 ans de passer de l'autre côté, du côté des auteurs, mais en gardant vraiment à cœur de ne pas être contre les éditeurs.
Bien sûr, bah, si on est contre, ça marche pas.
Ça ne
Il faut que
pas.
Ce soit gagnant, gagnant, gagnant.
Tout
entre vous, l'auteur, l'éditeur, quel poulain avez-vous, si j'ose dire? Qui avez-vous dans votre écurie comme auteur?
Alors, moi j'ai souvent des écrivains qui arrivent à l'écriture par la musique, par exemple Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, mais j'ai aussi...
La commode au tiroir de couleurs, si je me souviens bien. Elle était venue dans cette émission, et Mathias Malzieu aussi était venu dans cette émission.
Tout à fait. J'ai aussi des gens comme Antoine Griezmann, avec qui j'ai fait une série jeunesse, Gaulle.
Il n'a jamais fait Culture Média. La prochaine fois que vous lui parlez, dites-lui qu'on aimerait bien qu'il vienne ici dans l'émission. Je vous dis juste ça.
Pas.
Et Christophe Onodibio aussi.
Tout à fait, Christophe, qui sort pour son prochain livre à la rentrée. Voilà, très peu d'auteurs, mais des auteurs sur lesquels, justement, on peut discuter avec les éditeurs.
Je termine mon instant promo, après je passe à un autre sujet. Christophe Onodibio, qui sera l'invité de Culture Média à la rentrée. Claudia Cohen, pourquoi ce sujet autour des agents littéraires? Qu'est-ce qui en faisait un sujet d'actu pour les pages saumon du journal?
Alors, moi, je couvre le secteur de l'édition pour les pages Chaumont, et l'idée, c'était de faire un bilan sur la pandémie. Il s'est passé deux choses pendant la pandémie. Les Français confinés ont eu des envies d'écriture et ont envoyé des milliers de manuscrits aux maisons d'édition.
Ah oui,
des milliers.
Je me permets de vous interrompre, tout le monde n'a pas de talent. Il ne suffit pas d'être chez soi avec des velléités d'écriture pour que des maisons comme Flammarion, Seuil, Gallimard, Grasset ou Calman-Lévy vous signent.
Oui, mais vous pouvez rêver. Vous pouvez envoyer votre manuscrit en me disant que vous avez du talent.
Oui, voilà. Mais ce n'est pas ces gens-là que les agents vont essayer de chapeauter.
Non, mais il y a eu quand même un afflux de manuscrits dans les maisons d'édition et les maisons qui en sont venues à refuser des manuscrits, à faire des posts publics en disant « nous recevons trop de manuscrits,
bien
arrêtez
sûr.
De nous en envoyer ». Les agents en ont récupéré quand même quelques-uns.
Ah oui.
Et quand vous êtes auteur, quand vous essayez d'être publié que votre manuscrit est refusé dans une maison d'édition, vous dites « en fait, il y a des agents, donc on peut très bien aussi essayer par ce biais. Donc il y a eu ça, et il y a eu aussi le fait que les producteurs confinés chez eux ont beaucoup plus lu qu'avant et ont eu plus d'envie d'adaptation littéraire, se sont tournés à la fois vers les maisons d'édition et vers les agents. Donc l'idée, c'était de voir, il y a eu ces phénomènes, est-ce que ces phénomènes se traduisent en chiffres ? Et en appelant le syndicat, ils m'ont effectivement communiqué le fait qu'on était sur une cinquantaine d'agents aujourd'hui, ce qui représentait le double du nombre d'agents par rapport à il y a quelques années.
Claudia Cohen, vous avez interrogé pour ce portrait de nombreux agents, dont le pionnier, peut-être le plus connu d'entre eux, quoiqu'il soit extrêmement secret, François Samuelson, qui est notamment l'agent de Houellebecq ou de Virginie Despentes. Il vous dit, j'ai connu une époque où les éditeurs refusaient de lire des manuscrits envoyés par des agents, époque révolue, où ça existe encore ?
Ça existe encore, mais de façon très marginale. Donc on va dire époque révolue, mais il faut savoir que la tradition française est très différente des marchés anglo-saxons, où il y a une relation très directe entre l'auteur et l'éditeur. Donc c'est assez spontané en fait pour un auteur d'envoyer son manuscrit à l'éditeur. Or, si vous regardez ce qui se passe en Angleterre ou aux États-Unis, vous ne pouvez pas envoyer un manuscrit à une maison d'édition sans passer par un agent. Donc au départ, les maisons se disaient mais pourquoi en fait ? Pourquoi lire des manuscrits envoyés par les agents alors que moi, j'en reçois plein ?
Question à tous les deux, cette profession, c'est une institution en Angleterre, aux États-Unis, en tout cas dans les pays anglo-saxons. Quelles sont les différences entre les marchés de l'édition anglo-saxon et français ? J'allais dire, est-ce qu'il y a une différence ontologique, rien que de, peut-être même dans la façon dont le livre est vendu ?
D'abord, le prix fixe en France, c'est quand même la majeure différence. Chez les anglo-saxons, vous allez chez Tesco, vous, dans un autre supermarché, vous allez chez Barnes & Noble, vous allez dans une librairie, c'est pas le même prix.
Mais ça change quoi pour le métier de l'édition ? Il y a quelque chose qui change peut-être le métier de l'édition, c'est qu'un livre, je vais expliquer comment ça marche, quand un libraire vous achète un livre, il paye déjà le livre. Et si le livre ne se vend pas, il revient. Ce qu'on appelle les retours. Alors que quand un supermarché vous achète un paquet de Pépito, tant que le paquet n'est pas vendu, il ne touche pas l'argent. Et ça change complètement. C'est pour ça qu'il y a cette inflation, on peut s'en plaindre, mais c'est aussi formidable, de 650 ou 700 romans à la rentrée. Qu'est-ce que ça change pour votre métier et pour le sujet qui nous intéresse ?
Et ce que ça change, c'est que il faut faire le tri aussi dans tout ça. Je ne sais pas très bien où. Enfin, ça change plein de conditions. Peut-être Claudia, toi, tu as une vision plus globale.
Vous voulez dire en termes économiques ?
Bien sûr. Ouais, c'est peut-être la raison pour laquelle il n'y a pas besoin d'agent, puisqu'il suffisait de proposer un livre à un éditeur pour qu'il le publie. On s'est souvent plaint qu'il y ait trop de livres publiés en France.
Oui, mais je pense que l'argument économique est lié, encore une fois, à l'argument culturel. C'est juste que ce n'est pas naturel d'envoyer des romans à des éditeurs. Les marchands anglo-saxons se sont toujours reposés sur les agents, alors qu'en France, ça n'a pas été le cas.
Il y a un pionnier français, c'est Marc Lévy. Il a été l'un des premiers écrivains français à faire appel à un agent littéraire, Susanna Lee. On était en 97. Il a raconté sa rencontre avec cette ancienne éditrice. C'était sur Europe 1, c'était au micro d'Isabelle Morizet. C'était dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Je le rappelle, il raconte cette rencontre qui remonte à 97.
Susanna, c'est une rencontre qui se fait il y a 20 ans, maintenant bientôt, enfin 19 ans, dans le bureau de Bernard Barrault. Elle est à l'époque directrice des droits étrangers chez Robert Laffont.
Ouais, oui.
Et c'est elle la première qui vient me voir et qui prend mon manuscrit et qui, avec son petit accent anglais, me dit « Je pense que ça va faire un film et je vais aller vendre les droits à Francfort ». Bon, moi je lui dis « Non, surtout pas, parce que là je veux pas cette pudeur dont... » Et elle me rappelle 15 jours après, toujours avec son petit accent...
Le livre n'était pas encore publié.
Non. Et elle me rappelle 15 jours après, toujours avec son petit accent très Jane Birkin, et elle me dit « Vous n'allez pas être très content, mais il y a Spielberg qui veut vous parler. » Je ne sais pas si vous voyez la phrase, l'anachronisme de la phrase. Bon, elle va quitter les éditions Robert Laffont pour devenir un agent littéraire.
Francfort, je précise, c'est une très grande foire professionnelle du livre. Olivier de Dieuleveux, comment se passe une négociation justement pour les droits d'adaptation d'une œuvre ? Vers qui vous vous tournez en premier ? Les éditeurs, les diffuseurs, les maisons de production, comment ça se passe et dans quel ordre ?
Alors, en général, moi, avec mes auteurs, je garde les droits audiovisuels, donc je me tourne d'abord vers les producteurs. Typiquement pour la commode au tiroir de couleur d'Olivia
Ruiz,
il y avait beaucoup de producteurs qui voulaient l'adapter éditer. Et donc, il y avait des demandes d'Olivia qui étaient bien précises. Et puis, le livre se prêtait plus à une série qu'à un film. Et donc, on est parti sur ce sujet-là. C'est en général les producteurs qui vont avec les diffuseurs. Et ensuite, là, on en informe l'éditeur. Mais tout ça est une... La thèse est, c'est une joyeuse famille. On travaille tous ensemble dans le même but.
Et alors, puisque vous la citez, qu'est-ce que ça va devenir? Ça va être une série. Et où est-ce que vous en êtes alors sur ce projet-là avec Olivia Ruiz?
Alors, bah écoutez, ça a été acheté par Pathé qui a créé un département série pour l'occasion avec Estrella Productions, Stéphanie Carras-Lipugeot, et ce sera une coproduction internationale. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais ça va être très très chouette.
Ça sera franco-espagnol?
Je ne peux pas dire.
Parce que, ayant lu le livre, je me souviens que ça se passe beaucoup avec les projecteurs braqués sur l'Espagne. Vous restez avec nous, Claudia Cohen, Olivia de Dieuleveux. On continue de parler des agents dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
On parle de l'irruption des agents littéraires dans le marché français. Leur nombre a doublé en 5 ans. Ils font le lien entre les auteurs, entre les chaînes de télévision, entre les producteurs, entre les plateformes. Nous sommes avec Olivia de Dieuleveux qui est agent littéraire et Claudia Cohen qui a signé une enquête passionnante dans Le Figaro. Et la question que les gens se posent, c'est: j'ai écrit un livre, je ne connais personne dans le monde de l'édition, il n'est pas prouvé que j'ai du talent, dois-je d'abord prendre un agent littéraire?
Alors d'abord, je vais rebondir, Philippe, sur ce que tu viens de dire.
Ce que vous venez de dire, on se tutoie, on se voit.
On se voit. Le mot talent est très intéressant et ça montre la différence de mentalité entre la France et les pays anglo-saxons. En France, on part du principe où un écrivain est comme un artiste, un talent qui est inné. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas être écrivain, ça ne s'apprend pas. Alors que en Angleterre, aux États-Unis, vous avez des gens qui ont du talent, vous avez aussi ceux qui souhaitent devenir auteur. Vous avez un tas d'ateliers d'écriture où on vous apprend des ficelles qui marchent ou qui ne marchent pas pour être écrivain. Et ce qu'on voit, et je pense qu'il est un peu en lien avec aussi le développement des agents littéraires, ça va être le développement des ateliers d'écriture qui se développent aussi beaucoup en France. Vous avez Editis, pour ne pas citer le groupe, qui a lancé il y a quelques jours son premier atelier d'écriture public.
Donc vous avez raison, on a l'impression qu'en France, le talent littéraire, ça vous tombe dessus comme le doigt de Dieu. Alors ça ne gêne personne d'apprendre le cinéma à la Fémis ou autrefois à l'IDEC?
Non, les mentalités sont très différentes.
Olivia de Dieuleveux, je me tourne vers vous. Quand un livre est adapté en télé ou au cinéma, quel est l'impact sur les chiffres de vente du livre? Est-ce que ça a un impact ou est-ce que cela n'a rien à voir?
Je vais faire une réponse de Normand, ça dépend. Voilà, si je cite Game of Thrones, le Trône de Fer était publié depuis 20 ans chez Pygmalion en France et vendait à peu près 4000 exemplaires et 1000 par an. Game of Thrones sort, ils sont au million d'exemplaires. Pour cet exemple-là, il y a autant de contre-exemples. Souvent, le dernier en date, c'est les Chroniques de Bridgerton chez Netflix et du coup, qui a été un carton absolu chez J'ai lu. Voilà.
Claudia Cohen, est-ce qu'il y a une rivalité entre les agents et les éditeurs de ce que vous avez compris au soir de votre enquête?
Oui, clairement. Pour être très honnête, ce que j'ai mis aussi dans le papier, c'est que aucun éditeur avec qui je suis en contact régulièrement parce que je couvre le secteur de l'édition pour Le Figaro n'a souhaité répondre en on, donc officiellement n'a souhaité apparaître dans le papier.
J'ai vu ça, c'est très frappant.
Il y a des tensions et si vous regardez les revues spécialisées autour du livre, vous avez tous les quatre matins des titres sur des rivalités entre le SNE, qui est le syndicat des auteurs, avec certains éditeurs. Parce que il y a toujours cette question sur les négociations. Et effectivement, si jamais un des arguments de l'agent, c'est de dire à un auteur « je vais défendre votre disons, pouvoir d'achat et votre pouvoir financier face aux éditeurs, forcément, il y a toujours cette rivalité qui s'est quand même beaucoup assainie, mais il y a encore un sujet, oui.
Alors Olivia de Dieuleveux, quand on pense au métier d'agent, on pense évidemment à la série 10% de France 2. Ça vous fait sourire, 10% c'est le pourcentage que touche l'agent sur le cachet de son artiste, comédien, comédienne. Dans votre enquête, Claudia Cohen, François Samuelson vous explique que l'éditeur touche 50% de commission et devient propriétaire des droits. Les agents laissent pour leur part la propriété à l'auteur et touchent une commission entre 10 et 20% sur les droits de production. C'est le bon chiffre, Olivia de Dieuleveux?
Oui, on est en moyenne à 15%, parce que les chiffres ne sont pas les mêmes que pour l'audiovisuel.
Il faut expliquer 15% de ce que touche l'auteur. Non pas 15% du prix du livre, parce que l'auteur lui-même touche parfois 15% du prix du livre. Ça peut aller de 8% jusqu'à 20% pour les très très gros noms.
Exactement. Et l'agent est payé par l'auteur. Ce n'est pas l'éditeur qui paye l'agent. Donc il faut aussi que l'auteur puisse se permettre de prendre un agent.
Et est-ce que la friction ne vient pas au moment où l'auteur dit à son éditeur « Je veux un pourcentage plus grand parce que maintenant j'ai un agent ». J'ai posé la bonne question. je sens que c'est le bon endroit.
Là, il y a une double friction parce que l'éditeur, lui, se dit « Ah, il y a un agent, donc ça veut dire que sur les droits secondaires, il va devoir reculer. Et bien sûr, l'agent, il est payé à la commission. Donc, il est payé... Il touchera plus s'il rapporte plus.
L'agent n'est pas payé à la commission, l'agent est payé au pourcentage.
Au pourcentage, oui, d'accord. Mais c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que du coup... oui, en général, quand un agent rentre dans la boucle, c'est pour faire une négociation mieux pour l'auteur, moins bien pour l'éditeur. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Le travail d'agent, ce n'est pas que ça. C'est vraiment aussi...
Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi la mise en place, il y a aussi la visibilité de vos talents, comme on dit. Est-ce que vous en occupez, est-ce que vous vous intéressez aussi à leur place dans les médias, par exemple, ou est-ce que vous laissez ce travail aux attachés de presse?
Évidemment, on travaille. Moi, je suis de concert avec l'éditeur, mais l'idée, c'est le meilleur livre possible, d'abord, donc meilleur texte possible. On travaille en amont, chez le meilleur éditeur possible. Les ADN des éditeurs sont différents, dans les meilleures conditions possibles, et avec le plus grand rayonnement possible. Et donc, du coup, en effet, regarder les plans marketing, regarder les plans médias, accompagner tout ça. Et moi, comme j'étais de l'intérieur chez un éditeur avant,
Je voudrais faire réagir à une information qui est arrivée hier. Le journaliste François Bunel a annoncé hier, dans une interview au Parisien, qu'il arrêtait la présentation de la Grande Librairie sur France 5. Réaction ?
Ah, c'est triste. Voilà. Mais c'est pour faire des belles choses. Il reste producteur et il a énormément. Il vient de faire un magnifique documentaire sur Jim Harrison. Je suis bonheur que ça lui a donné d'autres envies dans ces domaines-là et ce serait bien.
Le mot de la fin, j'allais vous le donner.
Le mot de la fin, il faut relativiser la situation et comme tout métier d'intermédiaire, le métier d'agent peut être compliqué. Et pourra-t-on voir dans les prochaines années un développement du marché français comme celui des marchés anglo-saxons ? L'avenir nous le dira.
Le mot de la fin a été signé Claudia Cohen. Votre enquête « Les agents littéraires bousculent l'édition », c'est à lire sur le site du Figaro. Merci aussi d'avoir été avec nous, Olivia de Dieuleveux. Je rappelle que vous êtes agent et on va retrouver l'une de vos auteurs mardi dans Culture Média. Il s'agit d'Olivia Ruiz. Dans un instant, alors là, les droits, ils sont amortis depuis très 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 longtemps. Les Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos, 1782. Il revient sur Netflix en version 2.0. C'est réalisé par Rachel Suissa. Elle sera avec nous dans ce studio. A tout de suite sur Europe 1.
Philippe Vandel.
Culture Média.
Sur